Domingo, domingo, catene, catene.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, comment se projeter sereinement dans l'avenir quand un virus est capable de mettre en mode pause une partie de l'humanité, quand des méga-feux dévorent des milliers d'hectares de forêts, que des inondations noient des villes entières et que l'Arctique se liquéfie? Eh bien tout simplement en refusant de regarder la réalité en face. Sauf que cela nous rend fous, car nous avons un besoin viscéral ou plutôt cérébral de calmer nos incertitudes et d'imaginer un avenir au-delà de l'écran de nos smartphones. Ça se passe dans un endroit très précis de notre cerveau, dans notre cortex singulaire qui est aujourd'hui en surchauffe. Pour le refroidir, la solution serait de faire de l'habitabilité de la Terre une cause commune pour l'humanité. Écoutez vous-même, vous jugerez.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Les flammes dévorant Notre-Dame ont fait le tour du monde et ému bien au-delà de la France. Les réactions de soutien et de compassion affluent du monde entier. À Strasbourg, c'est l'ensemble des représentants de l'Union européenne qui ont exprimé leur solidarité.
L'incendie de la cathédrale Notre-Dame nous a de nouveau fait prendre conscience que nous sommes liés par quelque chose de plus important et de plus profond que les traités.
Outre-Atlantique aussi, le sort de ce monument a inquiété les personnalités politiques. Le président des États-Unis, Donald Trump, a commenté le terrible incendie.
C'est l'un des plus grands trésors du monde. Si vous y pensez, c'est peut-être même plus grand que n'importe quel autre musée dans le monde. Et ça brûle terriblement. On dirait que ça va s'effondrer.
Une émotion partagée jusqu'au Japon, où le chef de cabinet japonais a exprimé son soutien à la France.
Le gouvernement japonais voudrait exprimer ses sincères condoléances au président Macron, au gouvernement français et à tous les Français.
Des réactions également en Afrique, avec le message du président ivoirien, et en Amérique latine, où les chefs d'État ont eux aussi eu une pensée pour le monument. Le président brésilien a manifesté sa tristesse sur Twitter, tout comme son homologue vénézuélien. Loin d'être exhaustive, cette liste de pays ayant manifesté leur soutien rappelle l'importance du monument pour le patrimoine mondial.
C'était le 15 avril 2019. Le monde entier s'était ému de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame, le monument le plus visité d'Europe, construit il y a plus de 850 ans. Même le président brésilien, qui ne s'émeut pas des flammes qui détruisent l'Amazonie, a fait part de sa tristesse. Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Nous vous avons déjà reçu dans C'est pas du vent pour votre livre précédent, Le bug humain, dans lequel vous nous expliquez pourquoi notre cerveau nous poussait à détruire la planète. Et vous venez de publier un nouveau livre, Où est le sens? Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation. C'est publié chez Robert Laffont. Un livre un peu plus optimiste, quoique. Alors vous débutez justement avec cet incendie de Notre-Dame. Pourquoi?
Parce que c'est quelque chose qui nous interroge. Quand on entend les témoignages venus du monde entier, il y a quelque chose qui nous rappelle que l'être humain est un être de symbole. On se réunit autour de quelque chose qui nous connecte à autre chose que notre matérialité. J'avais effectivement développé dans le bug humain cette idée que notre cerveau veut avant tout accumuler des richesses, consommer, dominer, manger, se distraire. C'est la partie bestiale qui nous vient de notre évolution très très ancienne. Mais quand on voit la façon dont l'être humain est profondément touché par comme ça des symboles de ce qui fait le cœur de l'humain qui s'effondre et qui s'embrase, on dit il y a autre chose. Alors on pense à la spiritualité. Moi, comme je suis neurobiologiste, je vais voir dans notre cerveau d'où nous vient comme ça cette capacité à nous mobiliser pour quelque chose qui s'élève vers le ciel, un édifice de pierre, un symbole artistique, quelque chose qui symbolise aussi la permanence dans un monde qui va très très vite. Et là, en regardant dans notre cerveau ce qui s'allume en nous, on voit cette petite partie de notre cortex qui est logé entre nos deux hémisphères.
Alors ce cortex singulaire, alors qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Expliquez-nous le principe de cette petite chose.
Alors, ce cortex singulaire, c'est très étonnant parce que c'est une partie de notre cerveau qui cherche sans arrêt à trouver des règles dans son environnement, essayer de se repérer, de savoir comment le monde fonctionne. Et donc il fait des prédictions, il dit si je m'assieds là, il va se passer ça, si le ciel se couvre, il va pleuvoir demain. Il fait des prédictions sans arrêt, donc il se projette dans le temps, il essaye de trouver des règles pour se repérer, pour trouver une continuité. Si les choses se passent conformément à l'ordre qu'il croit avoir discerné dans son environnement, il est content, il se calme. D'accord. En revanche, s'il arrive dans une situation qui semble un peu chaotique, où tout change sans arrêt, où l'organisation sociale n'a plus de sens facilement discernable, où il y a une incohérence interne dans l'individu entre ses valeurs et ce qu'il fait, ses actes, à ce moment-là, il tire une sonnette d'alarme et nous fait ressentir une angoisse en libérant des hormones comme le cortisol, comme la noradrénaline qui nous plonge dans une angoisse. Et là où ça devient fascinant, c'est qu'on se rend compte que il est aussi très sensible justement aux visions du monde un petit peu cosmiques comme ça, ou religieuses, ou aux grandes idéologies. Quand vous mettez des gens dans une IRM et que vous leur dites « le monde obéit à un ordre, il y a un sens à notre existence ».
Une IRM, c'est une machine pour observer le cerveau. D'imagerie médicale.
Voilà. Eh bien, on voit ce cortex singulaire qui s'apaise parce qu'il se dit « le monde n'est pas un endroit complètement aberrant, on peut savoir où on va, on peut obéir à des codes ». Ça peut être par exemple dans les grands messages spirituels, savoir comment agir sur Terre pour ensuite s'offrir une vie dans l'au-delà, mais pas seulement. Hein. Ça peut être toute forme d'idéologie ou de code de vie en commun. C'est une zone de notre cerveau qui nous fait ressentir un calme profond quand on est persuadé que le monde a un sens et que notre existence individuelle a un sens.
Alors on va le rappeler, hein, notre cerveau n'est pas uniquement récemment, c'est le résultat de millions d'années d'évolution. Et donc, ce cortex singulaire, il nous a aidés à la base, il y a même à peu près quoi, 10 000 ans, hein, quand on a démarré l'agriculture, à faire société.
Oui. Voilà, le cerveau qu'on voit aujourd'hui, hein, si on regarde votre cerveau dans un scanner à IRM, on voit une structure d'ensemble avec des replis, des choses compliquées, mais qui sont en place en fait depuis des dizaines de milliers d'années. On vient avec un cerveau qui s'est formé il y a très très longtemps. Alors ce qui est important, c'est de voir qu'il y a plusieurs époques dans l'évolution de l'humanité. 99% du temps que nous avons passé sur Terre, hein, les humains, s'est passé dans la période paléolithique où on vivait dans des petits groupes de quelques dizaines d'individus. Et là, ce cortex singulaire servait à anticiper en fait le comportement des autres. C'est très très important de faire confiance à ses semblables, que ce soit à la chasse, que ce soit dans l'organisation de la vie de groupe.
Aujourd'hui, ça va être dans le foot, dans le rugby.
Aujourd'hui, ça va se retrouver, oui, dans des équipes, par exemple, tout à fait. Et donc, ce cortex singulaire a pris l'habitude comme ça de créer un petit ordre, un micro-ordre social dans des petits groupes au début, où tout le monde se connaissait. Ce qui se passe, là, la période que vous mentionnez, c'est celle du néolithique. Il y a 10 000 ans environ, là, il y a l'explosion de l'agriculture et de l'élevage et la formation des premières grandes villes, de milliers, de centaines de milliers d'individus. Et là, pour la première fois, vous vous retrouvez confronté dans les grandes villes à des gens que vous ne connaissez pas. Et donc, pour le cortex singulaire qui aime faire des prédictions, trouver des règles, savoir comment se fier aux autres, ça devient très difficile parce qu'il ne connaît pas les gens par leur nom, il les a pas tous rencontrés depuis qu'il est tout petit. Et là, il va falloir se fier à une organisation sociale qui permet de faire confiance aux autres et de savoir comment ils vont se comporter.
Et ce sera notamment la religion.
Alors, avant même les grandes religions, il y a des grandes études sur les big data qui ont été amassées par des grandes universités de par le monde qui viennent de montrer que tout au début du néolithique, bien avant les premières grandes religions, il y a la propagation d'un phénomène qui sont les rituels collectifs. C'est-à-dire que les gens commencent à se rassembler par assemblées de milliers de personnes, ils font les mêmes gestes, ils disent les mêmes rituels.
Et alors, j'ai noté, parce que vous en parlez dans votre livre, hein, c'est quand même une étude qui a été faite sur 414 grandes cités entre moins 1000 et moins 500 ans avant notre ère, dans 30 régions du monde.
Oui,
c'est
oui.
Hyper impressionnant.
C'est la première fois qu'on peut utiliser aujourd'hui les ressources énormes des big data dans les grands fonds universitaires. Donc ça permet de faire des découvertes d'une autre portée sur ce qu'a été cette époque-là de notre histoire. Et ce qui est fabuleux, c'est que quand on voit aujourd'hui, on peut tester l'effet, est-ce que ça fait de faire un rituel sur un cerveau humain? De nouveau, vous mettez des gens dans un scanner, et puis vous leur faites accomplir des petits gestes rituels, ou des petits signes de croix, ou des petites routines qui sont les mêmes que celles de l'autre personne à côté, et vous voyez à ce moment-là que leur cortex singulaire s'apaise aussi. Parce que cette répétition de mouvements qui sont les mêmes chez vous et chez vos voisins crée une impression que c'est pas le chaos. Il y a un ordre immanent à la société qui fait que chacun fait la même chose. Ça diminue la notion de ce qu'on appelle l'entropie, la mesure du désordre hein, en sciences physiques. Et ça rassure énormément le cortex singulaire. Et donc ces grands rituels collectifs permettent finalement à des gens qui se retrouvent confrontés à l'angoisse de l'anonymat pour la première fois au néolithique, de se reposer sur des codes communs et de se dire, bah, peut-être que l'autre qui fait la même chose que moi au même moment pendant cette cérémonie, je peux un peu mieux le cerner. Et on va arriver à le cerner un peu mieux une fois qu'on se persuade que ces mouvements que tout le monde fait, eh bien, ils les font parce qu'ils croient dans les mêmes valeurs fondamentales. Et c'est là que c'est l'éclosion des valeurs morales. Et on voit que systématiquement, entre la propagation des rituels collectifs dans les villes du néolithique et l'apparition des premiers grands dieux monothéistes, il se passe en moyenne 2, 3 ou 4 siècles. C'est une évolution qu'on voit dans 80% de ces 400 grandes cités de l'Antiquité.
Mais à ce moment-là, notre cortex singulaire se portait mieux qu'aujourd'hui. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, il va très mal. Il est en surchauffe parce que justement, il a perdu le sens. Alors, en quelques mots, quand vous dites, le titre de votre livre, c'est « Où est le sens ?» C'est quoi le sens, en fait ? C'est un mot très, très vaste.
Mm-hmm, oui. Le sens, il a trois plans. Le premier plan, c'est celui, on va dire presque, qu'on voit déjà chez d'autres espèces que chez l'être humain, avant qu'on apparaisse sur Terre, c'est la capacité à repérer une organisation simple dans votre environnement. Par exemple, un petit singe qui se déplace dans la forêt, il voit un jour un arbre où il y a des noix, il repère les noix, il les mange, il a du plaisir. Mais le lendemain, il va avoir du plaisir par anticipation, simplement quand il arrive dans l'endroit où il a repéré qu'il y avait une certaine organisation du terrain, et donc son cerveau déjà repère des régularités.
C'est comme nous quand nous voyons une plaque de chocolat, par exemple.
Voilà, ou même une publicité, qui évoque le plaisir qui va venir. Donc c'est déjà une façon de créer, de se repérer dans un monde, de se dire, il y a quelque chose qui va arriver, je peux le prévoir, je contrôle un peu le monde parce que j'ai compris qu'il y a des choses qui se passent et qui ne sont pas totalement désordonnées. Ça, c'est le premier sens du sens, c'est la prédiction de comment fonctionne le monde. Et c'est le même qu'on retrouve un petit peu dans les religions. Parce que les religions, finalement, utilisent des divinités pour avoir prise sur le réel. On voit dans énormément d'études d'anthropologie sur les peuples premiers, il y a des divinités auxquelles on fait des sacrifices pour demander d'intervenir, par exemple pour faire tomber la pluie ou pour éloigner des malédictions. Donc là, c'est l'idée qu'on va se référer à une entité surnaturelle, de nouveau pour contrôler le réel. Bon. Et ensuite, il y a le deuxième sens dont je vous parlais, qui est le sens social, c'est pour prédire comment vont se comporter les autres en société. Et puis il y a aussi un sens intérieur, là on va parler de la cohérence qui existe entre nos valeurs, ce qu'on croit, ce qu'on pense important et ce qu'on fait. Quand il y a une dissonance entre les deux, quand il y a contradiction par exemple entre le fait de savoir que vous détruisez la planète en faisant un métier qui consiste à produire du plastique à tout va, et d'autre part le fait que vous travaillez pour une entreprise qui produit des bouteilles en plastique, à ce moment-là, il y a collision entre vos valeurs et vos actes, là il y a contradiction. Donc là on peut dire que le sens interne de la personne n'est pas rempli. Voilà.
Et à chaque fois, dans ces trois cas, c'est le cortex singulaire qui fonctionne.
Dans ces trois cas, c'est systématiquement le cortex singulaire qui tire la sonnette d'alarme.
Voilà, et le problème, c'est que ce cortex singulaire, nous l'avons négligé. Ce n'est pas sans conséquence. Nous en parlons avec vous, Sébastien Boller, juste après une pause en compagnie de The American Breed, The Brain, dans C'est pas du vent.
He's a genius, but he's a schemer who plays the fiend.
The American Breed, The Brain, dans C'est pas du vent sur RFI.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et nous sommes en compagnie de Sébastien Boller, aujourd'hui docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho, qui vient de publier « Où est le sens ?», les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation, publié chez Robert Laffont. Alors c'est vrai, Sébastien Boller, que l'on peut se poser la question de « Où est le sens ?» quand nous entendons par exemple ce genre d'informations.
Figurez-vous que la compagnie australienne Qantas vient d'écouler les 134 billets d'un vol au départ de Sydney en une petite dizaine de minutes, avec pourtant des tarifs de haute altitude, hein, entre 500 et 2300 euros. Pour ce prix-là, les passagers vont survoler plusieurs joyaux océaniens, la Grande Barrière de Corail ou encore le rocher sacré d'Uluru, mais ils atterriront 7 heures plus tard à Sydney, autrement dit à leur point de départ. Voilà, c'est la nouvelle mode du moment, notamment en Asie. Pour les vacanciers en mal de voyage lointain, la compagnie China Airlines basée à Taïwan a proposé de faux vols. Carte d'embarquement, contrôle des passeports, consignes de sécurité à bord, tout y était. Sauf que l'avion n'a jamais quitté le tarmac.
Prendre l'avion pour revenir au point de départ. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Sébastien Boller ?
Je trouve ce phénomène emblématique d'un stade ultime de l'absurde où nous sommes arrivés. Mais
et vous donnez d'autres exemples dans votre livre,
oui,
qui sont,
oui,
aussi affligeants.
Moi, j'ai été frappé par des publicités ces derniers mois pour des voitures qui consistaient à dire quel est le plus long trajet que je pourrais faire pour aller d'un endroit à un autre parce que je veux profiter au maximum de mon pouvoir de consommer, de brûler du carburant, et peu importe si ça, si a une fonction, une utilité, on se pose plus la question. Et je crois que là, dans le cas de ces vols sans destination, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toute une partie de l'humanité qui ne sait plus quoi désirer, qui ne sait plus quel sens donner à ses choix au quotidien. Quand vous savez, vous n'avez plus comme ultime recours pour meubler votre journée que d'utiliser une machine de façon inutile, c'est que derrière, qu'est-ce que vous avez à la place? Si on enlève nos biens de consommation, si on enlève nos petites certitudes, hein, j'appelle des micro-certitudes, du fait de pouvoir maîtriser une séquence d'actes, le fait d'embarquer dans un avion, de se retrouver à sa place, de siroter une coupe de champagne, de sentir la poussée des réacteurs.
Mais pour revenir au point de départ.
Pour revenir au point de départ, c'est que véritablement, je crois qu'on a escamoter la question du sens. On est dans une société qui, depuis longtemps, en fait, ne se pose plus la question du sens, parce que le programme de l'Occident rationnel depuis des siècles, c'est de rendre tout le monde heureux par la possession et par le confort. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que non seulement ça ne nous rend pas heureux, mais en plus, c'est en train de détruire totalement notre planète. Donc, on est dans un non-sens à cause de ça aussi. Tout ça est frappé du sceau du non-sens, parce que ce projet d'être heureux, en fait, nous rend malheureux. Ce projet de consommer condamne nos perspectives d'avenir. Et là-dedans, soit on fait le constat que c'est contradictoire et on en tire des conséquences, soit on vit là-dedans, comme tous ces gens qui s'embarquent dans ces avions, sans se rendre compte que c'est contradictoire. Et à ce moment-là, on en subit les conséquences frontales pour notre cerveau, parce que la contradiction, notre cortex singulaire le détecte. Que vous soyez intelligent ou pas, que vous ayez conscience ou pas, lui, il le détecte et il libère ses hormones du stress.
Alors vous dites qu'en gros, dans votre livre, c'est à partir du moment où on a maîtrisé la science, la technologie, qu'on a eu donc ce sentiment faux, on s'en rend bien compte aujourd'hui, hein, de maîtriser la nature, qu'on a perdu le sens.
Oui, vous savez, quand on voit que le sens, la perception du sens des choses s'ancre dans une partie de notre cerveau, pour un biologiste, ça veut dire que cette partie de notre cerveau, elle repose sur des gènes qui ont été sélectionnés par l'évolution. Ça veut dire que discerner du sens dans son existence, dans le fonctionnement du monde et de la société, c'est vital. Si ça a été sélectionné, c'est que ça a un rôle vital. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on s'est dit, c'est plus la peine, on n'a plus besoin de grands messages de sens, de cosmologie, ou de rituels, ou de valeurs sacrées? Mais c'est qu'à un moment, ça n'a plus été nécessaire pour survivre. Et ça n'a plus été nécessaire parce que, effectivement, déjà à la Renaissance et puis dans la Révolution industrielle, la maîtrise technique issue des grandes découvertes scientifiques a suffi progressivement à assurer la survie de tout le monde, et de plus en plus de manière individuelle grâce à la démocratisation du commerce, de la technologie, de la distraction, de l'eau courante, de l'électricité, des moteurs, de l'électroménager. Là, l'homme a commencé à maîtriser par son pouvoir technique ce pourquoi il avait besoin du sens autrefois. Donc nous sommes découverts comme des dieux techniques. Et donc nous n'avions plus besoin du sens comme facteur de coopération et de réunification des personnes en situation hostile.
Après, ça concerne quand même qu'une partie de l'humanité. Hein.
Oui.
Je pense notamment, par exemple, au continent africain, où la notion de sens a encore une valeur, parce que justement, la technologie, la consommation, même si tout le monde y aspire, n'a pas encore évincé tout ça.
C'est très important. Il y a un phénomène de vase communicant entre la partie du cerveau qui veut nous faire consommer, que j'évoquais dans le bug humain, le striatum, et le cortex singulaire qui, lui, veut du sens. Et vous voyez que systématiquement, quand le striatum qui veut consommer prend l'ascendant parce qu'il a les moyens de le faire par la technologie, le cortex singulaire s'éteint, enfin, est laissé de côté. En revanche, quand il n'y a pas assez de technologie, là, c'est le sens qui se réveille. Et là, ce qui se passe, c'est que vous avez effectivement des populations entières à la surface de la Terre qui sont un petit peu au milieu du guet, qui sont encore avec des systèmes d'interprétation du monde, mais qui aspirent effectivement à une maîtrise technologique et à du confort. Mais il faut bien réfléchir. Quand on passe de l'un à l'autre, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd? Et aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation où on n'a plus rien à gagner à passer dans le versant technologique du striatum. On a plutôt intérêt à cultiver cette ressource essentielle, parce que c'est aussi une ressource d'appartenance, qui est celle du sens, du signifiant, du symbolisme et du cortex singulaire.
Oui, parce que quand on maltraite notre cortex singulaire, eh bien, comme vous l'avez dit, ça génère chez nous de l'angoisse, à tel point que dans les pays occidentaux, il y a un nouveau phénomène qui est apparu, qui s'appelle la solastalgie. Alors, je vous propose d'écouter les explications de la psychothérapeute Charline Schmerber, qui a créé justement le site solastalgie.fr.
Alors, la solastalgie, c'est un néologisme qui a été créé par Glenn Albrecht, qui est un chercheur australien. C'est vraiment la détresse, la douleur psychologique que l'on ressent à voir l'habitat dans lequel on évolue se dégrader alors qu'on est dedans. À la différence de la nostalgie où vous pleurez, vous êtes triste d'un endroit que vous avez quitté, là, c'est vraiment tout un ensemble d'émotions comme de la tristesse, de la colère, de la peine que vous ressentez alors que vous constatez que votre lieu de réconfort est en train de se dégrader.
Et c'est différent de l'éco-anxiété?
Oui, ce qui est différent entre ces deux termes, c'est l'expérience que l'on fait, c'est-à-dire dans la solastalgie, c'est une expérience rétrospective, c'est-à-dire que vous constatez que vous avez perdu quelque chose, que vous avez perdu l'environnement que vous connaissiez, alors que dans l'éco-anxiété, c'est plutôt une forme d'anxiété qui est prospective. C'est imaginer le futur, imaginer l'avenir qui vous génère toute une panoplie d'émotions.
Alors, vous avez beaucoup de patients. Quels sont les symptômes?
C'est des personnes qui arrivent dans une forme de détresse, plutôt en burn-out écologique. En fait, ils sont très fatigués, dans beaucoup de tristesse. Ou alors, ça peut être des personnes qui arrivent dans un état de colère, d'urgence. Ça, c'est plutôt des gens qui arrivent par le biais de la collapsologie, des personnes qui ont réalisé qu'il y avait un effondrement en cours et qui cherchent des solutions, qui sont plutôt dans un phénomène d'essayer de trouver des réponses à un état dégradé du monde et qui viennent consulter parce qu'ils ne trouvent pas de solution, en fait. Et j'ai tout un autre profil de patient, ça peut être aussi des personnes qui ont toujours eu conscience que le monde dans lequel on vit marchait un peu sur la tête et n'était pas très cohérent, et c'est des gens qui n'ont jamais su mettre un mot sur ce qu'ils ressentaient, et qui arrivent en me disant « bon ben voilà, je souffre aujourd'hui, je comprends que je souffre d'éco-anxiété ou de solastalgie », qui était quelque chose qui avait toujours été un peu latent.
Alors vous avez fait une enquête sur votre site solastalgie.fr justement pour essayer de comprendre quelles étaient les attentes des gens ou leur état d'esprit, et il en est ressorti des points clés qui sont un peu communs à tous ces échos anxieux. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels?
Oui, alors j'en ai ressorti différents enseignements. C'est que ce qu'ont partagé les participants, c'est que c'est vraiment une anxiété qui est systémique. C'est-à-dire qu'elle est liée à tout un ensemble de facteurs qui vont au-delà juste des simples phénomènes écologiques, en fait. Les personnes qui ont répondu partagent une anxiété qui est liée à l'ensemble du système et du fonctionnement du système. Ça part de problématiques très individuelles jusqu'à la sphère géopolitique, en passant par toute une dimension sociétale, écologique, bien évidemment, et économique. Donc c'est tout un ensemble de facteurs qui va générer une anxiété chez les individus. Ce qui a été très intéressant, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas juste de l'éco-anxiété. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à utiliser ce terme-là. Les personnes ont partagé, j'ai souvenir, 175 termes différents pour je les avais interrogés sur « ressentez-vous d'autres émotions que de l'anxiété ?» et 175 termes ont été utilisés pour qualifier les ressentis. Donc ça va bien au-delà de ça. Ils ont mentionné de l'impuissance, de la tristesse, de la colère, de la peine, du désespoir, de l'espoir aussi. Toute une panoplie d'émotions qui va donc bien au-delà de la simple anxiété.
Quel que soit le terme utilisé, Sébastien Boller, on va dire que ça ne va pas très fort. Et donc, pour compenser ce stress, cette éco-anxiété ou cette solastalgie, et qu'est-ce qu'on fait finalement? On mange, on consomme des vidéos, on se drogue, on boit. C'est un peu triste, oui, tout ça.
Si on ne nourrit pas notre cortex singulaire avec quelque chose qui évoque la cohérence, la stabilité, parce que c'est ça aussi dans la solastalgie, c'est qu'on perd les repères. Les populations sur lesquelles a été étudiée la solastalgie, c'est des gens qui voyaient même les montagnes dévastées par les entreprises minières. Quand on voit le paysage lui-même s'effriter, il n'y a plus aucun repère. Et notre cortex singulaire veut de la stabilité. Donc quand il ne la trouve plus, quand il a l'impression que l'environnement qu'on a connu disparaît, et puis quand il n'arrive plus à se projeter dans l'avenir, là, il n'y a plus de flèche de la temporalité, il n'y a plus la stabilité du passé et la projection dans l'avenir, il n'y a plus de continuité du sens, du signifiant. Et là, il faut pallier ce manque, il faut combler le vide de sens. Et on sait très bien qu'à ce moment-là, la partie reptilienne, le striatum, entre en ligne de compte et veut nous faire libérer de la dopamine, l'hormone du plaisir, en mangeant, en regardant des vidéos, en achetant des choses. Parce qu'à ce moment-là, c'est là le piège, c'est qu'on rétablit le sentiment de contrôle. Aujourd'hui, quand vous avez du pouvoir d'achat, l'argent, c'est le symbole du contrôle. Vous êtes encore en contrôle individuellement. Quand vous avez l'argent, quand vous avez le pouvoir d'achat, quand vous avez le centre commercial, quand vous pouvez appuyer sur un bouton et retrouver le soir toujours le même générique de la même série télévisée, ça recrée un mini-ordre, ce qu'on appelle une micro-certitude, et ça calme ponctuellement ce besoin d'ordre et de stabilité. C'est terrible. On va remplacer, en fait, la montagne qui a été évacuée par la solastalgie par une série télé qui nous repropose tous les soirs un peu le même paysage, qui nous rassure avec des codes. On a besoin de codes. Et donc, on va combler le vide, mais malheureusement, par des moyens dérivatifs qui sont extrêmement coûteux pour notre environnement, pour nos ressources, pour notre avenir, et qui en plus ne font qu'anesthésier temporairement notre besoin de sens, parce que ce sont des avatars de sens, c'est des micro-certitudes, c'est pas une vision englobante, et donc on n'est pas sorti du problème.
Et puis pour notre santé, hein, puisque donc on mange et on parle évidemment de l'obésité qui prend de l'ampleur dans le monde, la drogue, alors vous parlez de la drogue dans votre livre, c'est incroyable, vous expliquez à quel point les drogues les plus répandues dans le monde, c'est-à-dire la cocaïne, les opiacés et l'alcool finalement, bah, calment ce cortex singulaire, justement, pile poil ça frappe là.
Ouais. Alors cocaïne et opiacés vont éteindre effectivement le cortex singulaire antérieur. Donc c'est comme si vous êtes angoissé, puis d'un seul coup vous prenez une substance, vous n'avez plus du tout cette angoisse du manque de signifiant. Voilà, vous êtes anesthésié et l'alcool pris de façon chronique et pathologique va même réduire carrément le volume du cortex singulaire. C'est une façon de s'anesthésier et de supporter de vivre dans un monde qui n'a pas de sens. J'ai été étonné après en revisitant l'œuvre de Camus, qui disait que le drame de l'être humain, c'est d'être assoiffé de sens et d'être dans un monde qui n'a pas de sens. Moi, ce que j'ai pas la prétention de compléter ça, mais par l'approche neurobiologique, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est biologiquement câblé pour le sens, donc c'est vrai, et nous vivons dans un monde qui n'a pas de sens parce que nous l'avons créé comme tel, par cette toute-puissance du striatum et de la technologie.
Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons le retrouver, ce sens, et vous donner des solutions quand même dans votre livre. Donc on va faire un petit peu de positivisme et de perspective juste après une pause musicale avec la bande originale du film The Meaning of Life des Monty Python. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Or perhaps we're just one of God's little jokes? We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Simply spiraling coils La bande originale du film Le sens de la vie dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
C'est pas du vent, en compagnie de Sébastien Bollor, aujourd'hui docteur en neurosciences, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho, qui vient de publier « Où est le sens ? Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation » chez Robert Laffont. Une civilisation qui a connu justement des soubresauts jusqu'à récemment, selon l'un des spécialistes de l'histoire de l'humanité, le paléoanthropologue Pascal Pic.
En fait, on a changé de monde en 2007. Trois raisons. La première, la majorité de la population humaine est urbanisée et ça va s'accentuer. Deuxièmement, c'est l'arrivée du smartphone. Troisièmement, c'est l'intelligence artificielle dite moderne, donc avec le traitement des données. Les, tout ensemble, ça s'appelle les smart cities. Mais les smart cities...
Smart pour dire intelligent.
Oui, intelligent.
On vient à Sapiens,
mais,
finalement.
Mais elles ne seront pas intelligentes, ces villes, s'il n'y a pas d'écologie dedans. La ville de Singapour est intéressante, ou d'une ville dans laquelle l'écologie est rentrée dans la ville. Et donc, comment repenser le progrès avec la nature ? Sachant qu'on ne reviendra jamais en arrière, l'évolution ne revient jamais en arrière. Donc c'est comment préserver ce qui peut être préservé et créer une nouvelle dynamique. Mais l'avantage quand même, c'est qu'avec cette énorme urbanisation, se dégage, mais c'est le cas en Europe, hein, au centre de la France ou ailleurs, nous avons de grands espaces qui se diversifient et les loups n'ont pas attendu leur tour pour arriver. Donc il y a de bonnes, il y a plein d'éléments positifs, mais qui ne sont pas encore intégrés dans une vision commune de l'avenir de l'humanité. Et ça, c'est le grand enjeu des anthropologues, des philosophes et des politiques.
Voilà, et des neuroscientifiques, Sébastien Bollor, l'avenir de l'humanité. Alors donc 2007, c'est l'année du lancement de l'iPhone. C'est en effet une période où l'urbanisation est devenue plus importante que la vie dans le monde rural. Donc tout ça, ce sont des basculements de civilisation qui ont des conséquences très très fortes aujourd'hui.
On a du mal encore à les mesurer pleinement. C'est vrai que ça, l'urbanisation, elle est anticipée même jusqu'à l'horizon 2100. Je crois que c'est 60 à 70% de l'humanité qui sera urbaine à ce moment-là. Il faut se demander ce que ça entraînera pour les grands espaces, effectivement, que mentionne Pascal Pic, parce que c'est vrai qu'il y a des espèces qui recolonisent leurs biotopes, mais globalement, il y a un énorme effondrement de la biodiversité. Donc aujourd'hui, je pense que entre 2007 et 2020, il s'est aussi passé énormément de choses, et notamment, on s'est rendu compte à quel point maintenant il fallait repenser la façon dont l'homme vit dans la nature et pas seulement isolé dans des grandes villes.
Alors vous dites il faudrait une morale environnementale, il faudrait de nouvelles valeurs, il faudrait que repenser le sacré, créer de nouveaux rituels, faire en sorte que l'écologie devienne finalement la nouvelle religion mondiale. C'est évidemment pas dans C'est pas du vent qu'on va vous contredire, mais est-ce que tout ça n'est pas un peu utopique ?
Moi, je me fonde sur... Qu'est-ce qu'on a entre les mains ? Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour essayer de s'en sortir ? Je pense qu'il y a une énergie dans l'être humain, et c'est la seule qu'on peut mobiliser pour s'en sortir, parce que le problème, c'est nous qui l'avons créé, et si on n'arrive pas à trouver une solution dans l'être humain, on ne trouvera pas une solution au problème global. Et peut-être que c'est une utopie, mais moi, je me base sur le fonctionnement de notre cerveau. On a une énergie énorme qui nous vient de notre besoin de sens, notre besoin de symbolisme, notre besoin d'appartenance, de groupe. Et tant qu'on ne nourrit pas cette partie de notre cerveau, qui est le cortex singulaire antérieur, on va toujours plus se tourner vers des palliatifs de l'ordre de la consommation et de la surexploitation. Et quand on voit ce qu'il faut pour nourrir ce besoin de signifiant dans notre cerveau, dans notre être profond, on s'aperçoit qu'il faut des valeurs partagées, des visions du monde partagées. Les Monty Python, ils disent quel est le sens de la vie ? Et puis c'est de l'humour british absurde, parce que pour eux, il n'y a pas de sens de la vie. Et dans le fond, c'est vrai que la vie n'a peut-être pas de sens. Mais ce que nous apporte l'anthropologie et les neurosciences, c'est qu'en fait, le sens, c'est celui que se donnent les sociétés. Quand les sociétés définissent des valeurs qu'on appelle des valeurs sacrées, ça veut dire des valeurs incontournables, des valeurs fondatrices du fonctionnement des êtres humains. Qu'est-ce qui est bon de faire ? Qu'est-ce qui n'est pas bon de faire ?
Et qu'il y a des rituels. Redéfinir le bien et le mal.
On peut pas, on peut pas parler à notre cerveau profond sans parler de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. On a cru pouvoir le faire et remplacer tout ça par une prospérité matérielle pour tous. On se rend compte que ça s'effondre. Ça marche pas. Il faut acter le fait qu'on a un cerveau qui veut vivre ensemble en sachant mais qu'est-ce que je dois faire moi en groupe ? Qu'est-ce qui est bon de faire ? Pour être accepté, pour pas détruire ma planète, pour que savoir où on va tous ensemble. Donc, il faut parler ce langage à notre cortex singulaire. Et pour ça, les ingrédients qui ont été mis en évidence, notamment par ces études de Big Data, c'est qu'il faut des valeurs morales, en fait, des valeurs qui sont pas forcément transcendantales, mais qu'on dit qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut nous réunir tous. Et aujourd'hui, quelque part, on a une opportunité inédite qu'on sait que finalement, où qu'on soit sur la planète, on est confronté au même problème et on en connaît les tenants, les aboutissants. On sait très bien ce qui va nous emmener dans le mur et ce qui pourrait nous éviter d'amener dans le mur. C'est une autre façon de consommer, c'est une autre façon d'élever les animaux, c'est une autre façon d'utiliser les moteurs, c'est une autre façon de voyager. Sur le papier, on sait qu'est-ce qui peut nous donner l'énergie de le faire. Il va falloir renoncer à du confort, des commodités matérielles dans lesquelles on est né. Et ce que je dis avec cette analyse neurobiologique, c'est que c'est pas forcément impossible et c'est pas forcément une souffrance. Parce qu'on peut lâcher une chose d'un côté, le confort matériel, et récupérer autre chose de l'autre, qui est le sentiment d'appartenir à une communauté qui partage les mêmes valeurs. Et on a oublié tout ce que ça peut apporter comme nourriture intellectuelle et spirituelle.
Alors justement, ça veut dire quand même avoir accès à cette état du monde, avoir accès à la connaissance. Aujourd'hui, vous le dites, hein, vous l'écrivez dans votre livre, 500 millions de sites d'information, 1,7 milliard de sites internet, autant de pages Facebook, 31 millions de chaînes YouTube, 326 millions de comptes Twitter qui publient 100 000 posts par seconde. Oui. Alors, on n'est pas en manque d'informations, le problème c'est qu'il faut avoir les bonnes pour justement se rendre compte de l'état du monde. Oui. Comment est-ce qu'on fait prendre conscience aux gens de l'état du monde pour que réellement il y ait une mobilisation à la hauteur de l'enjeu?
Je crois qu'aujourd'hui on allait beaucoup trop loin dans le sentiment d'appartenance par réseaux sociaux interposés. Si on se fonde sur le fonctionnement de notre cerveau, pour avoir un sentiment d'appartenance réel, il faut de la présence réelle.
C'est pas très tendance le présentiel là.
Ah non mais... Là je parle du besoin humain fondamental. Le besoin de cohérence et de quelque part de communion avec les autres, où qu'ils soient. Et ce que vous décrivez avec cette pléthore de sites d'information, de sources d'information, c'est un morcellement du signifiant et des visions du monde. C'est même une atomisation du sens. Chacun a sa propre interprétation du réel, à tel point que chacun peut se créer sa propre théorie conspirationniste pour expliquer tout et n'importe quoi. C'est le vrai drame. Il va falloir proposer des visions du monde unificatrices.
Parce que sinon, c'est le repli communautaire, c'est donner sa voix au leader populiste.
Oui, alors ça c'est la dernière réaction de notre cortex singulaire, de notre cerveau, quand il a l'impression de vivre dans un monde qui est livré au chaos, à l'imprévisible, à l'absence de règles. Ce que Émile Durkheim, le fondateur de la sociologie, appelait l'anomie. Vous savez plus, finalement, quelles sont les règles du jeu en société. C'est, par exemple, c'est la compétition de tous contre tous, la précarisation et l'absence de régulation. Vous savez plus comment la société est structurée. Dans ces cas-là, l'angoisse du cortex singulaire et sa réaction, ça va être d'aller chercher des systèmes de sens très clairs, des systèmes d'interprétation de la société caricaturaux, pyramidaux, un leader autoritaire, des critères d'exclusion ou d'inclusion.
Si vous faites partie de la... great again.
Voilà. Donc là, vous nourrissez le cortex singulaire de millions d'Américains avec des discours qui proposent un sens très très clair, mais à la limite c'est noir ou blanc, enfin malheureusement au sens propre comme au sens figuré. Et malheureusement, notre cortex singulaire est tellement en demande de schémas d'interprétation qu'il va se jeter sur ces interprétations simplistes parce qu'on ne lui en propose pas d'autres. Par ailleurs, le politique doit faire une offre de vision du monde. Et il a abdiqué, il a abandonné, il a capitulé depuis longtemps sur ce plan pour se muer en gestionnaire économique.
Mais donc c'est au détriment de la complexité. Or, pour comprendre l'état du monde, il faut accepter cette complexité. C'est pas noir ou blanc, comme vous dites, je suis pas pour ou contre, c'est pas tout va bien ou tout va mal. Il y a des tonnes de nuances et les enjeux environnementaux, c'est extrêmement complexe.
C'est complexe et c'est le défi de l'éducation et de la connaissance. Aujourd'hui, les données, on les a en grande partie. Quand on voit les progrès que font les sciences de la projection climatique, par exemple, ou de la connaissance des écosystèmes, on est face à un monceau de connaissances qui n'attend que d'être diffusé. Et il faut absolument relever ce défi. Sinon, comment est-ce qu'on va pouvoir se retrouver autour d'une vision du monde partagée? On a de quoi la former, cette vision. C'est une vision qui va emprunter beaucoup à la science, à la connaissance, mais qui va aussi rajouter une dimension affective qui est celle de l'émerveillement.
Alors justement, c'est une solution qui est aussi préconisée par le moine bouddhiste et essayiste français Mathieu Ricard. Je vous propose de l'écouter.
Ça peut être un immense paysage, ça peut être une ligne de fourmis qui passe dans une mousse. L'émerveillement, forcément, mène au respect. Si vous êtes émerveillé par quelque chose, vous n'allez pas lui marcher dessus, le détruire, le saccager. Donc l'émerveillement mène au respect. Le respect mène au désir de prendre soin d'eux. Si vous respectez quelque chose, vous allez faire en sorte de le préserver, faire en sorte qu'il, justement, le protéger. Et ce désir de prendre soin mène à l'action. Donc c'est une manière, disons, constructive de s'engager pour la protection de la biodiversité, des paysages naturels, de la part sauvage du monde. Essayons de faire en sorte qu'ils ne disparaissent pas.
Sébastien Boller, l'émerveillement comme solution.
Il peut faire tellement, on est en manque d'émerveillement. Les photos de Mathieu Ricard sur les chaînes de montagne de l'Himalaya, il suffit d'ouvrir le livre pour se dire « j'aimerais voir ces paysages ». Il faut qu'on puisse voir ces choses-là, d'une part parce qu'on sait que ça nous nourrit, on le sent bien subjectivement. Ce qui est très amusant de voir, c'est que là encore, le sentiment d'émerveillement va agir sur notre cortex singulaire, celui qui veut du sens, qui veut du signifiant.
Ça agit comment ?
Il apaise. Vous prenez quelqu'un, vous le mettez dans une situation d'angoisse sur son travail, sur son emploi, sur le fait qu'il va rester, sa famille va éclater ou pas, sur l'avenir de la planète. Il a son cortex singulaire qui s'allume à fond, qui libère des hormones d'angoisse parce qu'il a l'impression d'être dans un monde chaotique qui n'obéit à aucun sens, aucun ordre. Et là, vous lui montrez des photos de paysages fantastiques, de nébuleuses dans l'espace, ou de petites mousses avec des fourmis, comme dit Mathieu Ricard. Et là, on voit le cortex singulaire qui se calme. C'est le pouvoir d'entrer dans un état mental et physiologique très particulier, qui est extraordinairement apaisant. Ça nous connecte à la fois à l'extérieur, à l'immensité de l'univers, de la nature, et en même temps, ça nous reconnecte à quelque chose de très intérieur. C'est très bizarre, c'est un vrai trait d'union, je crois, entre le monde extérieur et le monde intérieur, et ça agit, là encore, sur cette partie de notre cerveau. Voilà, mais c'est une question de normes sociales aussi. Qu'est-ce qu'on inculque aussi à nos enfants? Est-ce qu'on préfère les amener en forêt pour leur faire regarder les écorces des arbres ou les mettre devant un écran de télévision pour qu'ils tiennent tranquilles?
Alors est-ce que ça marche? Parce que vous dites il suffit de montrer des photos, parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'aller se promener en forêt, tout le monde n'a pas la possibilité de voyager. On le disait, hein, plus de la moitié de l'humanité habite en ville, on est de plus en plus coupé malgré tout de la nature. Est-ce que ça marche sur notre cortex singulaire de voir des documentaires ou de voir des images dans des livres?
Ah oui, ça marche. Enfin, je l'ai pas testé.
C'est pas aussi bien que d'aller directement en forêt.
Il faudrait le vérifier. En tout cas, le sentiment d'émerveillement qu'on peut voir devant un magnifique documentaire, il existe. C'est évidemment pas le même que devant un vrai spectacle naturel. Mais je crois que c'est aussi une posture. Vous pouvez aller dans un musée, vous pouvez aller faire des promenades en forêt, vous pouvez cultiver l'émerveillement devant les images du ciel, observer avec une lunette les étoiles. C'est vrai qu'on est peut-être aujourd'hui arrivé dans une situation où notre vie est tellement artificialisée dans certains endroits du monde, où c'est très difficile d'éprouver de l'émerveillement. Mais ça va faire partie aussi des chantiers. Les écoles peuvent participer, organiser des sorties. Et puis il y a l'émerveillement face même à la connaissance. Vous avez des enfants, si vous leur ouvrez une encyclopédie, que vous les faites voyager par des contes, par des histoires, vous leur racontez l'histoire des grands hommes, l'histoire des pyramides, par l'imaginaire, on peut créer l'émerveillement aussi.
Alors dans votre livre, un peu sur la fin, vous dites que c'est aussi le moment, l'urgence hein, du courage politique. Alors là aussi, il faudrait créer un peu d'émerveillement parce qu'il y a quand même un gros décalage. Comment il vit le cortex singulaire de nos leaders politiques? Comment est-ce qu'on va le chercher?
Ben c'est de là que ça doit venir. Le politique a un énorme problème aujourd'hui qui est l'accélération des rythmes des agendas et le fait de gérer l'urgence en permanence. Et puis aussi de la démocratie d'opinion, c'est-à-dire qu'on navigue à vue. Et est-ce qu'il y a des visions? Est-ce qu'il y a le désir en fait de poser les questions importantes aux gens que nous sommes? Je pense que si un pouvoir politique posait la question, est-ce que vous voulez continuer à vivre dans une société où vous êtes tous dressés les uns contre les autres pour essayer de gagner du pouvoir d'achat, ou est-ce que vous êtes prêt à renoncer à une partie de votre confort à condition, par exemple, d'être sécurisé dans l'avenir de vos choix de carrière, de ne pas toujours être sur un siège éjectable et d'être réuni dans des manifestations qui font sens. Aujourd'hui, les rituels de la société, ils ont disparu les uns après les autres. Le dernier, ça a été le service militaire, évidemment, mais même le bac, autrefois, qui était une forme de rituel, de passage, rituel initiatique, n'a plus vraiment cette valeur. Qu'est-ce qui reste comme véritable événement à valeur rituelle? Les grandes fêtes nationales le 14 juillet, qui exaltent des valeurs, on ne sait plus très bien comment elles s'accordent aujourd'hui avec les enjeux environnementaux. Donc, le pouvoir politique doit aussi proposer ce choix. Est-ce que vous voulez être toujours dans l'agitation pour gagner de quoi vous distraire au centre commercial, ou est-ce que vous voulez plus être dans une forme de renoncement, mais avec l'assurance d'être intégré à une communauté? Et ça, c'est très important, parce que ce que nous disent les études en anthropologie, c'est que l'être humain est capable de faire des sacrifices très forts, à condition d'être sûr que tout le monde fait les mêmes sacrifices. Ce qui est insupportable, c'est par exemple ce qu'on voit actuellement avec la crise des restaurateurs, quand on demande à une catégorie de personnes de faire des sacrifices, alors que les autres ne le font pas.
Oui, mais alors c'est toute l'histoire des négociations sur le climat, c'est-à-dire moi je ne vais pas dire à mon pays de baisser ses émissions de carbone si le voisin ne le fait pas, donc c'est pareil pour la biodiversité, enfin tout le monde se regarde en chien de faïence et en attendant tout se dégrade.
Oui, alors ça c'est le piège, ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier à l'échelle mondiale. Là, je crois que le premier qui proposera des visions du monde, qui rassurera les humains sur leur capacité de vivre ensemble, a une chance quand même de servir de modèle. Parce qu'on est dans une telle crise même de bien-être, d'appartenance, de réponse à nos grandes questions. Qu'est-ce que je fais là? Quel est le but de ma vie? Et puis est-ce qu'il y a un but s'il n'y a plus de planète dans 30 ans? Le pouvoir des visions du monde, on a vu ce que ça a donné avec des grands personnages comme Martin Luther King, c'était des gens qui proposaient des visions du monde. Ça active notre cortex singulaire, ça appuie sur une région ancestrale de notre humanité. Aujourd'hui, on marche avec la moitié de notre cerveau. Juste celle qui veut consommer. L'autre, celui qui saura l'allumer, à mon avis, a une chance de changer le cours des événements.
Ouais, ça commence par un choix individuel, hein, en attendant, au lieu d'attendre que ça tombe d'en haut, on peut essayer de l'allumer par nous-mêmes, cette partie de notre cerveau. En tout cas, on peut l'allumer en lisant votre livre, dont je rappelle le titre, Sébastien Boller, « Où est le sens ? Les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation ». C'est publié chez Robert Laffont. Merci d'être venu dans C'est pas du vent.
Merci beaucoup.
Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos nombreux messages. Continuez à nous écrire. Vous pouvez aussi nous réécouter en podcast sur vos plateformes préférées et partager nos contenus. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.